VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mardi 17 janvier 2017 en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Gambie, Adama Barrow, bien décidé à assumer le pouvoir jeudi, bien que le président sortant, Yahya Jammeh, refuse toujours de reconnaître sa défaite.
Campagne au Cameroun contre la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux.
En Égypte, 8 policiers tués hier soir dans l'attaque d'un poste de contrôle par un groupe d'hommes armés.
En Turquie, la police a arrêté à Istanbul l'auteur présumé de l'attaque, la nuit du Nouvel An, contre une discothèque de la ville.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump a rendu hommage à Martin Luther King et rencontré le fils aîné de ce dernier, quelques jours après s'en être pris à une autre icône des droits civiques, John Lewis.
Et ne manquez pas notre journal de la CAN au Gabon ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Gambie, Adama Barrow a promis d'assumer le pouvoir jeudi. Hier, devant la presse à Dakar, maître Mohamed Fati, l'avocat et conseiller du vainqueur de la présidentielle du 1er décembre, a lu à ce sujet une déclaration de M. Barrow à 2 jours de la fin du mandat du président Yahya Jammeh, qui refuse toujours de céder le pouvoir. Des détails avec Abdourahman Dia.
Adama Barrow a tenu à expliquer les raisons de sa présence dans la capitale sénégalaise depuis samedi. Selon maître Fati, c'est Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Liberia et présidente en exercice de la CEDEAO, qui avait demandé à M. Barrow de rester à Dakar après avoir pris part au sommet Afrique-France à Bamako. Il a aussi exigé la libération de tous les citoyens arrêtés, selon lui, arbitrairement dans son pays. Je dis aux auteurs de ces actes qu'ils seront sévèrement punis par la loi, a-t-il ajouté, exhortant les populations à ne pas répondre à la provocation. Reste à savoir comment et où exactement il va prêter serment. Yahya Jammeh ne montre aucun signe qu'il céderait le fauteuil à Adama Barrow. Il avait même saisi la Cour suprême pour empêcher la cérémonie d'investiture prévue en principe ce jeudi au stade de Banjul. Mais le président de cette cour, le Nigérian Emmanuel Fagbenly, s'est récusé hier de l'examen de ce recours. L'Union africaine avait indiqué la semaine dernière qu'elle ne reconnaîtrait plus Yahya Jammeh comme président légitime de la Gambie à partir du 19 janvier.
En Côte d'Ivoire, une partie des soldats ivoiriens qui se sont mutinés début janvier à Boaké, dans le centre du pays, ont reçu une partie de leur argent lundi après-midi. Selon plusieurs soldats mutins interrogés par l'AFP, alors qu'ils se trouvaient toujours devant la banque de l'habitat de Côte d'Ivoire, chaque soldat a reçu une somme de 5 millions de francs CFA sur son compte. C'est le premier virement sur un total de 12 millions de francs CFA à verser en plusieurs versements d'ici à la fin de l'année. Quelques 8 500 anciens rebelles intégrés dans l'armée sont concernés par la mesure.
Campagne au Cameroun contre la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux. Le gouvernement promet à leurs auteurs des peines de prison. Et puis dans les régions anglophones, les journées villes mortes ont paralysé plusieurs villes, dont Bamenda. Le point avec Bagassi Koura.
Dans un message envoyé aux abonnés de téléphonie mobile, le ministère des Postes et Télécommunications affirme que l'émission et la propagation de fausses nouvelles, notamment par les réseaux sociaux, sont réprimées par le code pénal. Un second message précise que vous risquez 6 mois à 2 ans de prison et une amende de 5 à 10 millions de francs CFA si vous publiez ou propagez sur un réseau social une nouvelle sans preuve. Minette Libom Lilikeng, ministre des Postes et Télécommunications, appelle les internautes camerounais à ne pas se rendre complices de la déstabilisation du pays. Sa mise en garde intervient alors que dans les régions anglophones, plusieurs organisations de la société civile ont appelé les populations à observer lundi et mardi 2 journées villes mortes à Bamenda, épicentre de la contestation et fief de l'opposition. L'opération a été bien suivie.
Au Zimbabwe, et tenez-vous bien, un pasteur a été arrêté hier pour avoir prédit le décès du président Robert Mugabe pour cette année. Arzuma Compaoré.
Patrick Mugadza a été interpellé au tribunal d'Harare. Il comparaissait pour avoir arboré sans autorisation le drapeau national, symbole des manifestants contre le pouvoir. Le pasteur pentecôtiste avait annoncé jeudi, dans une prophétie, le décès du président Mugabe pour le 17 octobre. Il a d'abord été inculpé pour atteinte à l'autorité du chef de l'État, puis pour insulte. Le pasteur Mugadza a déjà été arrêté en 2015 pour avoir brandi une pancarte hostile à Mugabe. Lors de la fête de l'indépendance en avril dernier, il a donné un sermon accroché à un lampadaire pour symboliser à ses yeux le manque de liberté dans son pays. Robert Mugabe, qui dirige le pays d'une main de fer, est le plus vieux chef de l'État dans le monde. Il fêtera ses 93 ans en février. Son parti, la ZANU-PF, l'a déjà investi comme candidat à la présidentielle de l'année prochaine.
En Égypte, 8 policiers ont été tués hier soir dans l'attaque d'un poste de contrôle par un groupe d'hommes armés dans la province d'Al-Wadi Al-Gedid, dans le sud-ouest du pays. Selon le ministère de l'Intérieur, 2 des assaillants ont été tués, tandis que 3 autres membres des forces de sécurité ont été blessés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump a rendu hommage hier à Martin Luther King Jr. à l'occasion de la journée MLK. Monsieur Trump a aussi rencontré le fils aîné du leader assassiné du mouvement des droits civiques quelques jours après s'en être pris à John Lewis, une autre icône de ce mouvement.
10 détenus de la prison militaire américaine de Guantanamo sont arrivés hier au sultanat d'Oman, où ils résideront de manière provisoire, a annoncé le ministère des Affaires étrangères à Mascate. Il reste désormais 45 détenus dans le centre de détention, alors qu'il y en avait 242 en janvier 2009, lorsque Barack Obama a pris ses fonctions de président.
En Turquie, la police a arrêté à Istanbul, après une longue chasse à l'homme, l'auteur présumé de l'attaque la nuit du Nouvel An contre une discothèque de la plus grande ville du pays et qui avait fait 39 morts. Et il avait déjà été identifié par les services de renseignement et la police antiterroriste d'Istanbul comme un Ouzbek de 34 ans, faisant partie d'une cellule du groupe État islamique en Asie, selon des articles parus dans la presse turque le 8 janvier.
Enfin, l'Américain Eugene Cernan, le dernier astronaute à avoir marché sur la Lune en 1972, est mort à l'âge de 82 ans, ont annoncé sa famille et la NASA lundi. Eugene Cernan était le commandant du vaisseau Apollo 17 en décembre 1972. Il s'agissait de son 3e vol spatial et de la dernière mission habitée américaine vers le satellite de la Terre.
Et tout de suite, le journal de la Cannes avec Nicolas Pinault sur VO Afrique.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Les léopards de la République démocratique du Congo ont le sourire ce matin puisqu'ils occupent seuls la première place du groupe C. Les Congolais qui n'ont pas été excellents hier à Ouyem face au Maroc, mais l'essentiel c'est la victoire pour cette entrée en compétition. Le compte-rendu tout de suite à Ouyem de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa.
Des lions marocains plus techniques et plus tranchants ont multiplié des assauts dans les camps congolais en première période sans parvenir à plier la défense congolaise. Bienvenue en seconde période. Les Congolais réussiront à la 54e minute par Junior Kabananga Kalonji à ouvrir la marque sur une frappe de Moubele Ndombe, mal renvoyée par le portier marocain. Florent Ibenguel veut retenir la victoire et salue le mental de ses joueurs. Il promet pour le reste de travailler jusqu'au match contre la Côte d'Ivoire.
Notre dispositif de départ en première mi-temps n'a pas été tellement respecté, ce qui fait qu'on les a laissés beaucoup avancer et comme ils font très bien le pressing, ils sortent très vite sur le porteur du ballon. On a eu énormément de mal à conserver le ballon. On a rectifié en seconde mi-temps jusqu'à ce qu'on marque. On a terminé à l'énergie. Bravo aux joueurs.
Satisfaction également de Cédric Bakambu, l'attaquant de Villarreal, quoique pour son premier match à la Cannes, il n'a pas pu marquer pour la RDC.
Oui, c'était un match très difficile. On le savait déjà avant de rentrer sur le terrain. Maintenant, voilà, on a mis un système en place. On savait que c'était pour aller à la guerre. Et c'est ce qu'on a vu ce soir. C'était pas très beau à voir, mais le plus important, c'est de remporter les 3 points.
Depuis Oyem au Gabon, Thierry Kambu de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Grosse déception en revanche pour les Lions de l'Atlas, version Hervé Renard. Malgré une domination en première mi-temps, les Marocains s'inclinent et devront se reprendre au prochain match. On écoute Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc.
C'est important de ne pas douter parce que si on commence à douter, on arrivera encore à faire de moins bonnes choses que ce qu'on a fait ce soir. Et pourtant, on a fait beaucoup de bonnes choses ce soir. C'est dommage de ne pas être récompensé. Je serais capable de vous donner de nombreux exemples d'équipes qui ont perdu le premier match et qu'on réussit à rétablir la situation et aller même très loin dans une compétition. Mais le dire, c'est facile. Il faut le faire maintenant.
Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc.
Africa, Africa, Africa.
Les Congolais sont donc seuls en tête du groupe C, et ce après le match nul 0-0 entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Les éperviers d'Emmanuel Adebayor ont su faire déjouer le champion d'Afrique en titre. Satisfaction du côté de Claude Leroy, le sélectionneur du Togo.
Oui, c'est un point formidable. Un grand coup de chapeau à mes joueurs qui ont fait un match incroyable. Bon, des conditions difficiles, une chaleur terrible. Mais je pense que tactiquement, on a parfaitement bien joué le coup. On a fermé dans les trois dernières minutes parce que je voulais surtout pas qu'on prenne un but idiot sur un compte. Mais autrement, on a toujours essayé d'attaquer, toujours essayé de marquer un but. On s'est créé, je crois, trois ou quatre occasions qu'on n'a pas réussi à convertir. On a eu une ou deux. Bon arbitrage, un arbitrage de grande qualité, intelligent. Mais nous, on est très contents.
Claude Leroy, le sélectionneur du Togo. Accroché, les éléphants ivoiriens ratent un peu leur entrée dans la compétition. Mais on ne s'affole pas du côté des Ivoiriens, comme l'explique Sérédier, le capitaine de la sélection.
Je ne m'inquiète pas, c'est une compétition, on a encore deux matchs. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on n'était pas bien dans nos chaussures. C'était un jour sans. Mais on ne va pas tout jeter non plus. Il faut reconnaître qu'en face, il y avait des joueurs qui avaient de l'expérience de la CAN. On va retourner, bosser et puis revenir avec plus de combativité. On n'a pas fait un bon match, on a pris un point. On va s'y ressaisir pour les deux autres matchs qui restent. On n'a pas fait notre football. J'espère qu'on va s'y remettre.
Sérédier, le capitaine des éléphants ivoiriens sur VOA Afrique. À suivre ce mardi, le retour à la Coupe d'Afrique des Nations des Pharaons d'Égypte qui seront opposés dans le groupe D au Mali à Port-Gentil, sans oublier les Black Stars du Ghana face à l'Ouganda. Le point sur ces deux rencontres avec Timothée Donangmaï, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon.
Le Ghana, dont le quatrième et dernier titre remonte à 1982, vient à cette CAN avec une soif de succès sans pareil et ayant échoué à plusieurs reprises si près du but. Plus récemment en finale de la CAN 2015 face à la Côte d'Ivoire. Le coach Avram Grant espère briser le signe indien et propulser les Black Stars vers le trophée africain. En face, les Uganda Cranes, les Grues ougandaises, renouent avec la Coupe d'Afrique des Nations après en avoir été privées depuis 1978. En seconde partie ce soir à Port-Gentil, dans le groupe D, le Mali affronte l'Égypte. Le Mali, qui court toujours après son premier titre africain, a fini en tête du groupe C lors des éliminatoires. Les Pharaons égyptiens, l'équipe la plus gradée de cette CAN avec 7 titres en 23 participations, veulent retrouver la gloire d'antan qui s'est arrêtée avec leur dernier titre en 2010. Ils viennent à cette compétition avec un nouveau cru dont Mohamed Salah assume le leadership. De belles rencontres en perspective. Timothée Donangmaï, Port-Gentil, VOA Afrique.
Et demain, retour des équipes du groupe A. Le Gabon devra l'emporter face au Burkina Faso. La Guinée-Bissau sera opposée au Cameroun. Retour sur les surprises des premiers matchs avec le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonjour. Depuis le match d'ouverture que le Gabon se croyait prédestiné à gagner contre la Guinée-Bissau, la 31e édition de la CAN semble s'être résignée à accepter comme invité surprise le suspense. Le néophyte de service de la compétition, la Guinée-Bissau a réussi à contrer techniquement et tactiquement le pays organisateur, incapable de déstabiliser une équipe venue pour défendre et contrer, une équipe qui se prend à rêver du destin du Cap-Vert de 2013 ou celui de l'Islande lors du récent Euro français. Décidément, il n'y a plus de petites équipes et tout se joue sur des détails. La preuve, c'est sur des coups de pied arrêtés que le Bissau-Guinéen Soares, le Camerounais Moukandjo, le Burkinabé Issoufou Dayo et l'Algérien Marez ont changé le cours des premières rencontres. Et si les Camerounais Bassogok et Ndje Clinton ou les artistes tunisiens et zimbabwéens peuvent regretter le bonus offert malencontreusement aux Burkinabés, aux Sénégalais et autres Algériens, la 31e édition de la CAN reste sur ses fondamentaux. La première journée est une grande revue d'effectifs que certains opportunistes peuvent exploiter avant des matchs décisifs de la deuxième journée. À demain.
Voilà, c'est tout pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. Rendez-vous ce soir pour un nouveau journal de la CAN, sans oublier notre page Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour, mais pour commencer, la Minute Éco d'Ilidiko.
Au Sénégal, la famille Mimran va céder la compagnie sucrière sénégalaise Les Grands Moulins de Dakar et d'Abidjan à la société marocaine Forafrique. La transaction, dont le montant est estimé à près d'un million d'euros, permettra à Forafrique d'atteindre ses objectifs de conquête du marché subsaharien. Une fois l'opération finalisée, la compagnie marocaine détiendra ses trois géants de l'agroalimentaire d'Afrique francophone. Au Togo, l'heure est à la défiscalisation pour les portables, les tablettes et les ordinateurs. Cette initiative résume à elle seule la volonté affichée du Togo de se moderniser en faisant des nouvelles technologies un moteur de développement du pays. La mesure annoncée en 2016 est entrée en vigueur ce 1er janvier suite à l'adoption de la loi de finances 2017 donnant lieu à la suppression des taxes à l'importation sur les terminaux mobiles et les équipements informatiques. La filiale de Shell au Gabon sera revendue au géant américain du capital investissement Carlyle. Selon un porte-parole de la filiale gabonaise du groupe pétrolier anglo-néerlandais, la signature du contrat est imminente. Le montant de la revente des champs pétroliers devrait être compris entre 600 millions et 1 milliard de dollars. L'imminence de cet échange inquiète les 400 salariés de la filiale qui ont menacé de durcir la grève lancée le 12 janvier.
Ici aux États-Unis, la journée Martin Luther King, célébrée hier, dans un contexte de polémique entre le président élu et un ancien compagnon du leader assassiné du mouvement des droits civiques. En effet, Donald Trump a déclaré que John Lewis devait s'occuper de sa circonscription au lieu de ne faire que parler. Ces propos pourraient envenimer davantage encore les relations entre le futur président américain et une bonne partie de la communauté africaine-américaine. Mais John Lewis devait-il remettre en cause la légitimité de Donald Trump? Au micro d'Abdulrahman Dia, la réponse de Souleymane Bachir Diagne, professeur à Columbia University.
Le mot de légitimité, évidemment, est un mot extrêmement chargé, parce que dire d'un président qui vient d'être élu, quoi qu'on pense des conditions de l'élection, qu'il n'est pas légitime, c'est évidemment une parole qui peut être interprétée dans le sens d'une remise en question de la procédure et des institutions. Tout dépend du sens que l'on donne au mot de légitimité. Il lui donnait une signification morale plutôt qu'une signification institutionnelle, mais c'est vrai que c'est une parole qui peut être perçue comme une parole qui remet en question les institutions démocratiques américaines elles-mêmes.
Cette célébration de la journée Martin Luther King, dans ce contexte de polémique, est-ce que on peut dire que les relations entre la prochaine administration Trump et la communauté noire, ces relations sont mal parties?
Écoutez, elles étaient déjà mal parties. On sait qu'au moment des élections, il s'est posé beaucoup de problèmes. On a parlé des relations que Trump, en tant que mania de l'immobilier, avait eues avec la communauté noire. On a parlé du fait qu'il avait mobilisé un certain nombre de groupes sociaux qui s'est caractérisé par le racisme, etc. Eh bien, cette polémique-ci va évidemment envenimer les choses juste à la veille de son entrée en fonction. Dire que c'est quelqu'un qui n'agit pas, mais que c'est quelqu'un qui parle simplement beaucoup, alors qu'il est la quintessence de l'action pour les droits civiques, ce que nous rappelait encore récemment le film Selma, c'était maladroit et c'est la réponse elle-même qui est de nature à envenimer les choses.
Pour ce qui est des relations entre communautés ici aux États-Unis, ces relations n'ont pas forcément été meilleures sous le président Obama. Pourquoi devrait-on s'attendre à ce que Donald Trump fasse mieux que son prédécesseur?
Vous savez, pendant la campagne électorale, la seule chose qu'il avait dite pour montrer que la communauté noire devait être plus positive envers sa candidature, c'était de dire « qu'est-ce que vous avez à perdre ?». Ce n'était pas un discours positif. Par conséquent, il n'avait rien dit de précis. Et là, dans le cas d'espèce, il y a une sorte d'inquiétude sourde qui est présente et nourrit le scepticisme par rapport à l'amélioration des choses sous la présidence de M. Trump.
Le professeur Souleymane Bachir Diagne de Columbia University.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Donc, Donald Trump va succéder dans 3 jours à Barack Obama. Après 2 mandats successifs à la Maison-Blanche, comment évalue-t-on en Afrique, au Burkina Faso dans ce cas-ci, le bilan du premier président africain-américain des États-Unis? De Ouagadougou, Zoumana Wanogo.
Barack Obama restera pendant longtemps dans la mémoire des Burkinabés dans leur quête du changement. Sa fameuse phrase « Il faut des institutions fortes et non des hommes forts » aura été comme la boussole du changement au Faso. On écoute Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, sur l'impact de cette phrase culte au Burkina.
Dans le cas particulier des événements récents, tout le monde se rappellera qu'il a eu cette phrase célèbre là à Accra. Donc c'est un cri de cœur qui a bien entendu été largement entendu par la jeunesse africaine et burkinabé et qui a pesé beaucoup donc dans le combat qui a été mené.
Ce cri n'est pas entendu de la même façon du côté des partisans de Blaise Compaoré. Suivant Achille Tapsoba, le président du CDP, le parti de Blaise Compaoré.
Nous estimons au niveau donc de notre parti, le CDP, que l'administration Obama a été une administration qui n'a pas honoré les espoirs de nos pays. Je rappelle également que les intrusions de l'ambassadeur des États-Unis dans la politique intérieure du Burkina Faso, je dis bien intrusion pour ne pas dire ingérence, ont été également une des situations que nous avons déplorées pendant le mandat du président Obama. La plus grande divergence, c'est cette fameuse tirade du président Obama, une tirade à laquelle le président Blaise Compaoré a dû répondre en disant que les grandes institutions sont mises en place par les grands hommes.
A contrario, Maître Benewende Sankara, premier vice-président de l'Assemblée nationale et faisant partie de la majorité présidentielle, salue le soutien de la diplomatie américaine au Burkina.
On peut dire que le président Barack Obama a réussi sa mission. Au niveau du Burkina Faso, retenir que l'ambassadeur Moussingo Toulinabo, Sidnaba, parce qu'il a eu le temps d'avoir des noms burkinabés, et qui était le représentant attitré du président Barack Obama dans mon pays, le Burkina Faso, quand il était en fin de mission, c'était une première fois que l'Assemblée nationale du Burkina Faso, opposition comme majorité, accueillait un diplomate pour l'acclamer à l'hémicycle pour le travail qui a été fait pour le Burkina. Le président Barack Obama a dit qu'il faut plutôt des institutions fortes que des hommes forts. C'était à un moment donné où le Burkina Faso avait un homme supposé fort, entre guillemets, qui s'appelait Blaise Compaoré et qui l'a appris à ses dépens.
Au-delà de l'aspect politique, la coopération pour le développement entre les États-Unis et le Burkina se porte bien. Pour preuve, le Burkina vient d'être élu au MCA, Millennium Challenge Account. Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Le Burundi a officiellement demandé le retrait de ses troupes déployées en Somalie dans le cadre de la force de l'Union africaine, réclamant cette dernière 12 mois d'arriéré. Les salaires de l'OMISOM sont financés par l'Union européenne qui a exigé de verser directement l'argent aux militaires, ce que le Burundi a catégoriquement rejeté. Mais l'exercice de retrait s'avère extrêmement compliqué, voire impossible. Eric Manira Kiza a joint dans les Grands Lacs l'ancien porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Adolphe Manirakiza, qui donne 3 raisons essentielles.
Le gouvernement serait incapable de gérer ses troupes une fois retirées de la Somalie d'une façon adéquate. Les militaires burundais maintenaient cette discipline parce qu'ils savaient qu'un jour ou l'autre, il sera envoyé dans une mission de maintien de la paix. Une deuxième raison, c'est une raison tactique. Les positions que les troupes burundaises occupent sur le terrain, ce sont des positions avancées qui sont en contact presque direct avec les Shabab. Il serait impossible de rejoindre le cantonnement avant de rentrer au pays sans qu'il y ait d'autres troupes qui occupent les positions qu'occupaient les militaires burundais. Ils ne pourraient même pas arriver à l'aéroport. Une autre raison, vu les conditions économiques que le Burundi est en train de vivre actuellement, que le gouvernement burundais soit capable de débloquer des fonds pour faire entrer 5400 hommes avec leur matériel. Je ne suis pas sûr. Si c'est une décision unilatérale du gouvernement burundais, c'est au gouvernement burundais de se charger de chercher les moyens nécessaires pour entrer ces hommes. Pour moi, ce qu'il est en train de faire actuellement, ce n'est qu'un chantage. On ne peut pas prendre ce risque. Le gouvernement burundais devrait plutôt adopter un profil bas et accepter que les militaires burundais soient payés directement sur leur compte. Le gouvernement burundais n'aura rien à perdre.
L'Union africaine et l'Union européenne connaissent ces contraintes du côté de Bujumbura.
Oui, on sait que le gouvernement burundais est en train de faire un chantage parce que c'est sûr et certain que ce n'est pas demain ou après-demain que ces militaires seront retirés de la Somalie. Ça, c'est sûr. Parce que c'est un exercice très, très, très difficile actuellement. Et surtout que ça comporte des risques. Et ce chantage est connu par l'Union africaine, il est connu par l'Union européenne. Donc pour moi, c'est un chantage inutile.
Oui, mais c'est au gouvernement de payer ses militaires. Ce n'est pas à l'Union africaine de payer directement les militaires en Burundi.
Je crois que c'est un prétexte. Il faut savoir que quand vous n'êtes pas capable de vous suffire économiquement, il y a des exigences auxquelles vous devrez céder pour pouvoir survivre, pour faire vivre votre peuple.
Tous ces problèmes ont-ils des effets négatifs sur l'efficacité des troupes sur le terrain?
Effectivement, imaginez-vous un militaire qui se trouve en face d'un ennemi, en face des Al-Shabaab qui sont en train de tirer sur lui jour et nuit. Et que vous entendez que demain ou après-demain, vous serez rapatrié d'une façon désordonnée. Il perd le moral totalement. Mais surtout quand il sent qu'il n'est pas payé, qu'il travaille pour rien pendant toute une année, c'est tout à fait normal.
Le colonel Adolphe Manirakiza, ancien porte-parole de l'armée burundaise.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Le colonel Adolphe Manirakiza qu'on a entendu tout à l'heure. Maintenant, nous passons au Bénin. Lutte contre l'urbanisation incontrôlée dans certaines grandes villes du pays et les autorités n'hésitent pas à recourir à l'arme du déguerpissement. De Cotonou, reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Il n'est plus un secret que le Bénin fait partie des pays dont l'explosion urbaine a entraîné la saturation massive des domaines publics par des habitations construites avec des matériaux précaires qui n'offrent aucune beauté et qui laissent penser à des champs de bataille mal entretenus. À tout cela s'ajoute le commerce itinérant qui s'est implanté au bord des grandes voies et à terre, empêchant parfois la libre circulation des personnes et des biens. Mais depuis quelques jours, la destruction de ces centaines de bâtiments préalablement marqués d'une croix rouge a démarré sous la supervision de l'autorité préfectorale.
On est là pour apporter les moyens pour ceux qui n'avaient pas véritablement des moyens pour partir d'eux-mêmes. C'est pas facile de louer une pelle excavatrice. C'est pas facile de louer un pot-char pour venir démolir des infrastructures qu'on a construites soi-même sur le domaine public. Donc, ceux qui n'ont pas ces moyens-là, l'État a décidé d'accompagner ces personnes.
Le préfet a d'ailleurs été séduit par la spontanéité des populations qui ont pris sur elles-mêmes la décision de quitter le domaine public. Quelques-uns donnent ici les raisons pour lesquelles ils ont décidé de s'en aller d'eux-mêmes.
Il y a des cas qui vont faire mal. Moi, par exemple, ça doit me faire mal. J'ai dépensé beaucoup, mais j'ai cassé tout ça. Ça fait mal aujourd'hui, mais demain, ça serait bon.
Les gousselots vont diminuer. Donc, je vois que ça va donner un bon image pour notre pays.
Ça fait un peu mal, mais nous, on est obligés de supporter. On n'a pas le choix. Moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir une avance pour me déloger. J'ai trouvé une autre boutique, mais il y a d'autres qui n'ont pas trouvé l'argent pour aller louer une autre boutique. Il y a d'autres qui ont trouvé l'argent, mais ils n'ont pas trouvé la place. Donc, tout ça là, l'État en cas de voir tout ça là.
Depuis le démarrage de cette phase de décapissement, les vendeurs d'essence de contrebande seraient selon certains la cible privilégiée du préfet de l'Atlantique littoral, Modeste Toboula, qui donne ici quelques clarifications.
Le maillon essentiel de cette opération, c'est la libération systématique de tout ce qui est produit ou homme qui occupe le domaine public. Les voies publiques sont totalement interdites d'occupation pour vente de produits illicites. C'est clair, c'est net. Quel que soit ce qui va se passer, les individus qui vont se mettre en travers du règlement vont subir les rigueurs de la loi. Parce que nous n'allons pas permettre que nous puissions faire des efforts pour déguerpir les gens et que d'autres personnes s'installent avec des produits fouillatés, soi-disant qu'ils sont en train de faire du business.
Malgré la bonne volonté des populations qui accompagnent le processus de déguerpissement, la morosité économique rend plus difficile la chose. Les commerçants sont ceux qui se plaignent le plus et implorent d'ailleurs la clémence du gouvernement tout en espérant qu'il y aura un accompagnement pour les relever de cette chute. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.